Bonjour mes chers auditeurs et chères auditrices. Aujourd'hui, nous continuons notre série d'émissions La Bonne Nouvelle aux musulmans et nous parlerons des commandements de l'Église. Je vous souhaite une bonne écoute. Si vous avez des observations ou objections à formuler, des questions à poser, n'hésitez pas à nous écrire à radio-silence@wanadoo.fr. Nous vous répondrons dans le plus bref délai. Les commandements de l'Église. L'Église, en ses chefs, a reçu le soin de faire des lois, ayant pour but de favoriser l'instruction et la sanctification de ses membres visibles, que sont les chrétiens. C'est notre Seigneur qui lui a confié ce soin lorsqu'il a dit à ses apôtres, et donc aux successeurs de ces derniers, « Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous méprise, me méprise. » Et encore, « Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur terre sera délié dans le ciel. » Par ailleurs, l'Église créée par Jésus dans ce but continue essentiellement sur la terre l'œuvre de Jésus. Elle le fait principalement par les fonctions et sous l'autorité des chefs légitimes, c'est-à-dire le pape et les évêques, lesquels ont reçu la mission et les grâces nécessaires pour la bonne continuation de cette œuvre. Et l'œuvre à poursuivre est triple. Enseigner les fidèles de l'Église, les diriger, et tout cela en vue essentiellement de sanctifier tous les membres de cette organisation ecclésiale terrestre. Et comme les mentalités changent, cela explique que les chefs religieux responsables changent parfois les lois de l'Église afin de les adapter aux formes variables de la vie, mais cela sans changer aucunement le fond des vérités éternelles que Jésus nous a fait connaître. Les commandements de l'Église, que l'on appelle aussi les préceptes, sont à respecter tout autant que les commandements de Dieu. On doit donc les observer avec soumission et confiance, intelligemment et courageusement, puisqu'ils sont faits pour notre plus grand bien spirituel. Actuellement, ces commandements sont les suivants. Tu sanctifieras les fêtes d'obligation. Cela veut dire qu'il faut se libérer des travaux et des activités qui pourraient empêcher la sanctification de ces jours-là. Et tu assisteras à la messe le dimanche et aux fêtes d'obligation. Tu te confesseras au moins une fois l'an. Tu communieras au moins pendant le temps pascal. Tu ne mangeras pas de viande et tu jeûneras pendant les jours fixés par l'Église, c'est-à-dire mercredi des cendres et le vendredi saint. Et dernier point, il faut subvenir aux besoins matériels de l'Église, chacun selon ses possibilités. Le premier commandement nous précise donc la manière dont il faut honorer Dieu publiquement. Ne pas l'observer serait alors s'exposer à devenir étranger à notre Seigneur. Tandis que l'année chrétienne est si bien distribuée qu'elle nous rappelle ce que Dieu a fait pour nous sauver. Une fête est une réjouissance à l'occasion d'un événement important, présent ou passé. Et une fête religieuse est un jour de joie surnaturelle, mais aussi de prière en l'honneur de notre Seigneur ou de la Sainte Vierge ou de tels autres saints ou événements religieux historiques, comme par exemple la naissance du Sauveur à Noël, Pâques, etc. Dans l'Église, il y a aussi des fêtes que l'on appelle d'obligation. Elles sont dites telles parce qu'elles font obligation aux chrétiens de marquer ce jour-là par des observances particulières, comme l'assistance à la messe ou certains sacrifices de privation à s'imposer. En France, depuis le Concordat de 1801, les fêtes d'obligation sont au nombre de quatre. Noël, c'est-à-dire le 25 décembre, marquant la naissance de Jésus à Bethléem. puis l'ascension de Jésus dans le ciel, puis l'ascension de la Sainte Vierge dans le ciel, le 15 août, et la Toussaint, le 1er novembre, jour où on honore ensemble toutes les âmes saintes du ciel. L'année chrétienne commence au premier dimanche de l'Avent, ça veut dire venu avènement, et dont l'Avent prépare la fête de Noël, tout comme le carême prépare la fête de Pâques. Toutes les autres grandes fêtes, qui rappellent les grands événements qu'a réalisé notre Seigneur, tournent autour de ces deux principales fêtes, Noël et Pâques. C'est ce qu'on appelle le cycle temporal. Dans ce cycle temporal, on répartit les fêtes de la Vierge Marie, des apôtres, des martyrs et des autres saints. C'est ce qu'on appelle le cycle sanctoral. La date précise de ces fêtes est fixée dans un livre liturgique qui s'appelle le martyrologe. Le deuxième commandement concerne l'obligation, dès l'âge de raison, c'est-à-dire vers les 5 ou 7 ans, selon la maturité de l'enfant, de confesser nos péchés, au moins une fois dans l'année en cours, et de recevoir, avec les dispositions nécessaires évidemment, notre Seigneur dans la communion eucharistique. L'époque de cette confession annuelle n'est pas déterminée, mais il est logiquement souhaitable qu'elle soit rapprochée du temps de la communion pascale, afin de s'y préparer. Mais l'on comprendra facilement, surtout depuis l'institution de la communion précoce par le pape Saint Pie X, qu'il est fort souhaitable, pour le bien de notre âme, de se confesser souvent, même s'il n'y a pas, tant mieux, de péché mortel à accuser. L'assistance au saint sacrifice de la messe, dont le troisième commandement nous signifie l'obligation, est l'acte de religion par excellence et le centre de toute notre dévotion. Cela se comprend en raison de la présence réelle de notre Seigneur que réalise la messe, d'une part, et parce que, d'autre part, elle rend réellement présent le sacrifice rédempteur de Jésus sur la croix. Et cela non pas comme un symbole, mais en une absolue réalité. L'Église, pour ces raisons, nous fait un devoir grave d'assister à la messe les dimanches de l'année et aux quatre fêtes d'obligation. Aussi, manquer la messe ces jours-là, ou la veille en soirée de ces jours-là, sans un motif très sérieux et manifeste, constitue un grave affront à Dieu. C'est vraiment un outrage à Dieu venu sur terre en se revêtant de notre humaine nature pour nous instruire et nous sanctifier. C'est aussi un dédaigneux mépris pour son sacrifice rédempteur accompli si généreusement pour nous réhabiliter. C'est enfin une négligence néfaste de nos devoirs de religion et de nos intérêts spirituels. Quant à la communion pascale, comme son adjectif le précise, elle doit se faire durant le temps pascal. Mais à ce sujet aussi, si le précepte exige de communier vers Pâques, il est bien évident qu'il est fortement souhaitable de recevoir dignement notre Seigneur dans l'Eucharistie aussi fréquemment que possible, à condition de s'y bien préparer. C'est notre Seigneur lui-même qui nous a fait cette recommandation. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie, c'est-à-dire la vie divine, en vous. On comprendra facilement alors combien cette mise en garde du Sauveur lui-même est faite pour notre plus grand bien. Mais il est bon ici d'attirer notre attention particulière sur les conditions de la réception fructueuse de la communion eucharistique. Il faut être en état de grâce, c'est-à-dire non seulement ne pas avoir de péché sur la conscience, mais aussi être dans de bonnes dispositions, à la fois intellectuelles, grâce à une connaissance suffisante de ce qu'est l'Eucharistie, et à la fois affectives, grâce à un désir sincère de Dieu par et dans la communion sacramentelle. À ces bonnes dispositions envers la communion pascale et les autres plus fréquentes, devront être unies l'intention et la détermination sincère de faire sérieusement effort pour vivre le plus et le mieux possible en conformité avec l'exemple que Jésus nous a donné durant son séjour terrestre. Gardons-nous d'une communion sacrilège, en allant communier alors que nous saurions être en état de péché, par exemple les divorcés remariés, ou sans s'être confessés depuis fort longtemps, ou plus encore, sans être baptisés même. Que ce soit parce que nous répugnerons à devoir dire nos péchés, ou devoir attendre notre tour, ou que ce soit pour faire comme tout le monde, ou pour faire croire à l'entourage que nous sommes fervents chrétiens, etc. Dans tous les cas, nous reviendrons alors de la Sainte Communion plus gravement coupables que nous l'étions auparavant. Les jeunes enfants eux-mêmes, dès l'âge de raison que parents, prêtres, catéchistes avisés auront déterminé, doivent recevoir notre Seigneur dans l'Eucharistie, en même temps qui sont dans l'obligation d'assister au saint sacrifice de la messe au jour prescrit. La préparation de ces enfants à leur première confession et communion doit faire l'objet d'une attention et de soins tout particuliers. La candeur et la pureté d'esprit des tout jeunes enfants constituent déjà des dispositions de qualité. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Mais on devra veiller à bien préparer ces derniers à leur première rencontre avec le Maître Jésus. La communion précoce des enfants devra s'accompagner autant que possible de la communion fréquente. Cela sera bien sûr et d'abord pour l'intérêt de l'enfant lui-même, mais aussi pour celui des parents et du milieu familial. La grâce reçue rayonnant alors sur tous les autres membres du milieu familial. Le quatrième commandement de l'Église concerne la mortification et l'abstinence. Ils ne sont pas de devoirs facultatifs. Nous sommes tous pécheurs et il faut extirper les racines de nos défauts. Or, Jésus a recommandé pour cela, après les avoir pratiqués lui-même, la prière et la pénitence. Il faut bien voir que le corps est souvent le complice ou même l'instigateur de la plupart de nos fautes. Il convient alors qu'il ait aussi sa part dans leur expiation. Ce sont là deux raisons pour faire de ces deux vertus, la mortification et la pénitence, la règle habituelle de notre vie. La mortification, ça veut dire porter la mort à. Donc la mortification prévient le péché, tandis que la pénitence le répare. D'ailleurs, une vie sobre et austère est salutaire à la santé et favorise la longévité. Mais surtout, elle élève aisément l'âme et l'esprit en facilitant le travail de ce dernier. Elle aguerrit la volonté et rend apte à la pratique des vertus. Dans le quatrième commandement, l'Église nous exhorte donc à nous abstenir de manger de la viande et de jeûner au jour fixé par l'Église, c'est-à-dire le mercredi des cendres et le vendredi saint, et de vivre le carême dans un esprit de pénitence et de sacrifice. Que veut dire carême? Le carême, qui commence le mercredi des cendres et se termine à Pâques, est une période de 40 jours pendant laquelle l'Église nous recommande la prière et la pénitence. Son commencement, le mercredi des cendres et le vendredi saint, sont marqués par le jeûne. Qu'est-ce que c'est? Le jeûne consiste à ne faire qu'un repas complet par jour. En temps ordinaire, le nombre et la quantité des mets ne sont soumis qu'aux règles de la tempérance chrétienne, tandis qu'en temps de jeûne, il n'en est pas de même. Attention, ce n'est pas comme dans d'autres religions où l'on rattrape la nuit ce dont s'est privé dans la journée. Mais les jours de jeûne, on sacrifie le plaisir de manger. On ne fait qu'un repas par jour, tandis qu'on peut boire autant qu'on veut. L'essentiel est que l'on puisse consacrer le temps gagné à la prière. Jeûner, c'est donc ne faire qu'un seul repas normal par jour. Mais il est permis d'y ajouter raisonnablement dans la journée ce qui est nécessaire pour bien remplir son devoir d'État. Sous le nom de viande, on entend la viande et le sang des animaux qui vivent sur terre ou dans les airs et qui ont le sang chaud. Sont permis à la consommation de ces jours-là les animaux à sang froid, comme les poissons. Ces préceptes nous contraignent à leur observance sous peine de faute grave, relativement à l'abstinence. L'obligation d'observance du précepte ne concerne pas les enfants au-dessous de l'âge de 14 ans, ainsi que les personnes ayant passé l'âge de 60 ans. Et par rapport au jeûne, ce dernier ne concerne que les personnes ayant plus de 18 ans et moins de 60 ans et étant en bonne santé. Enfin, il faut noter ici qu'on peut être dispensé d'observer tel ou tel de ces préceptes lorsque des motifs sérieux de santé ou d'empêchement majeur nous mettent dans l'impossibilité de leur observance. La dispense d'abstinence est automatique pour tout le monde lorsque les trois fêtes d'obligation suivantes, la Toussaint, Noël et l'Assomption de la Vierge Marie, tombent un vendredi. Le cinquième commandement nous exhorte à participer activement aux frais de l'Église en subventionnant ses œuvres, en payant le déni du culte, en aidant les bonnes œuvres du Secours catholique, etc. L'essentiel est que le chrétien vive dans un esprit de partage avec son prochain, qu'il pratique la charité et la miséricorde, et qu'il réalise les béatitudes, ces recommandations que Jésus nous a données dans son célèbre discours sur la montagne. Quelles sont donc les conséquences pratiques? Si les commandements de l'Église sont devenus peu nombreux et bien peu rudes, ils ne doivent être que mieux acceptés et observés. C'est surtout l'esprit de sacrifice auquel ils se réfèrent qui doit être considéré et accepté courageusement. Car le sacrifice aide à la réparation des péchés. En effet, dans tout péché, sa motivation, c'est le plaisir que l'on y a recherché et y a trouvé. Mais c'est un plaisir désordonné auquel on n'avait pas droit. Or, tout désordre se répare par son contraire. Tout le déplaisir qui caractérise le sacrifice, quel qu'il soit, et qui constitue donc plus ou moins une réparation ou une compensation des péchés commis. Il n'a pas pu en être question dans ses commandements, mais il reste sous-entendu que les sacrifices doivent être accompagnés de la prière. En effet, en péchant, nous nous éloignons plus ou moins de Dieu selon la gravité de nos fautes. Et là aussi, notre rapprochement de Dieu se fera plus facilement par la prière sincère et réparatrice de notre abandon ou de notre éloignement plus ou moins grand de Dieu qu'ont réalisé nos péchés. Si nous avons une idée claire et juste de la religion, nous serons alors acceptés et même parfois recherchés le sacrifice et la mortification comme de solides moyens de nous racheter de nos péchés et de ceux du monde, en même temps que nous serons plus unis à l'œuvre de rachat que Jésus, par amour pour nous, a si généreusement accomplie. C'est pourquoi est très juste cette déclaration. Sans esprit de sacrifice, il ne peut pas y avoir de vie chrétienne bien comprise. Rappelons que la Sainte Vierge, dans toutes ses apparitions, notamment celle de Lourdes et de Fatima, nous recommande instamment la prière, notamment le chapelet et la pénitence. Mes chers auditeurs et mes chères auditrices, nous terminons donc cette leçon sur les commandements de l'Église. Merci de votre attention. Je vous dis au revoir jusqu'à la prochaine fois, votre Véronique.